Le règne animal. Le nouveau film Événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il existe certains thèmes qui paraissent destinés à échapper irréductiblement à la curiosité, pourtant insatiable, des historiens, parce que ces sujets sont entourés par nature d'un secret qu'on pourrait croire inviolable, au plus creux, au plus cru de la vie intime. Mais voici que la recherche y aborde désormais avec peut-être d'autant plus d'élan et d'audace qu'on avait pu naguère songer à la brider. Nous allons parler de la nuit de noces, telle qu'elle fut vécue en France dans le cours du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. L'évolution de nos mœurs contemporaines en a rejeté largement l'usage, et cette distance temporelle peut aider à redécouvrir, par-delà de fausses évidences, quelque chose comme une étrangeté. Aïcha Limbada, docteur en histoire contemporaine, membre de l'école française de Rome, vient de nous donner sur ce thème un livre assez merveilleux, dont je me devais de vous faire profiter. À partir d'une profusion inattendue de sources multiformes, elle analyse la portée d'une pratique qui jette une lumière originale sur toute une société, dans l'ordre du romanesque et plus brutalement, dans celui des dominations de genre et parfois de classe. La nuit de noces, en rupture avec le quotidien, est encadrée par des rites, des croyances et des comportements qui engage les nouveaux couples selon une expérience personnelle destinée à être souvent décisive pour des vies entières. Des forces puissantes, familiales, religieuses et sociales, entre injonctions et interdits, pèsent sur le déroulement de l'événement. Tandis que l'imaginaire, nourri du mystère lui-même, entoure ce moment à la fois de rêve et de grivoiserie. Un moment individuellement paroxystique, qui est en même temps statistiquement banal, puisqu'il est vécu chaque année, au cours de la période considérée, à l'occasion de 200 à 300 milliers de mariages, au cœur d'un aussi grand nombre de chambres à coucher.
Les époux ont fermé la chambre nuptiale. Enfin seul, c'est le doux moment. Madame est rouge et monsieur pâle. Ils se parlent tout bas mystérieusement. Leurs cœurs battent à se briser. Et dans un doux bruit de baiser, l'épouse déjà presque nue fait cette prière ingénue.
Je t'aime, mais quand même, mon chéri, mon époux, j'ai bien peur. Quand tu frôles mes épaules, une angoisse mettra le cœur. Vois, je tremble, que t'ensemble, essayons de dormir.
Non.
Pourquoi ? Je t'implore, pas encore. Sois gentil, pas ce soir, laisse-moi.
Mais à cette exquise plainte, son époux reste sourd, et dans une douce étreinte, il cueille la fleur d'amour. Et madame, toute vermeille, le matin lui dit à l'oreille, en ouvrant ses yeux de velours.
Oh, nuit exquise, tu m'as prise. Laisse-moi me blottir dans tes bras. Je suis tienne, une chaîne nous unit de ton cœur à mon cœur. Et ravie dans la vie, je n'aurai qu'un désir, ton
Aïcha Limbada, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer une chanson assez kitsch qui s'intitule « Valse nuptiale ». C'est une chanson qui est ici portée par Caroline Claire et Christian Borel sur des paroles de Lucien Boyer et une musique de Raoul Soler, 1970. Il me semble que certain nombre des thèmes que nous allons avoir à traiter sont ici déjà présents.
Oui, en effet, cette chanson, Valse nuptiale, est en quelque sorte une transposition en chanson de thème, d'un thème iconographique bien connu du début de la Belle Époque, qui s'appelle Enfin seul, qui était représenté dans de nombreuses cartes postales, qui campait le jeune couple dans la chambre nuptiale au début de la nuit de noces devant le lit conjugal. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est la représentation des époux qui adoptent des gestes, des attitudes différentes, qui n'éprouvent pas la même chose. Donc là, on voit une femme qui exprime son amour pour son mari, mais qui en même temps exprime aussi la peur qui peut y avoir à passer cette nuit.
L'extrême d'une pudeur.
Elle est pudique, elle a peut-être peur de ce qui va se passer, et en tout cas, là, elle exprime bien les ambivalences de cette première nuit. Elle redoute un peu ce qui va se passer, alors que l'homme, lui, est davantage dans l'expression du désir charnel.
La dissymétrie est déjà très présente.
La dissymétrie est présente, et là, tout de même, la chanson présente une version optimiste de ce qui peut se passer pendant la nuit de noces, puisque à la fin de la nuit, l'épouse est devenue femme et elle s'en réjouit. Donc ça veut dire aussi que le mari a su éveiller en elle le désir et lui donner satisfaction. Et en fait, cette chanson masque un peu le côté un peu sombre qu'il peut y avoir dans beaucoup d'autres récits qui évoquent plutôt des difficultés des époux qui se rencontrent pour la première fois charnellement.
Nous ne ferons pas au cours de cette conversation l'économie d'un certain nombre de regards assez sombres, en effet, mais il y a eu aussi du bonheur.
Il y a du bonheur, et là, c'est ce que montre la chanson. Et même quand il y a des difficultés, on parle d'exquise plainte dans cette chanson. C'est une façon de relativiser aussi les appréhensions de l'épouse et de les trouver charmantes. C'est une affaire de point de vue.
Vous citez en épigraphe de votre beau livre, vous citez Michel Perrault, la grande historienne, dans son Histoire de chambre, qui vous concerne directement, un livre de 2009, vous citez ce propos, « Les pratiques des couples, leurs gestes et leurs murmures, leurs désirs et leur satiété, leurs ardeurs et leur lassitude nous échappent largement. » Et pourtant, vous les avez trouvés. À partir de quelle source? De quelle curiosité assouvie?
J'ai trouvé beaucoup de choses. Tout d'abord, beaucoup de sources imprimées. Au XIXe siècle, il y en a beaucoup sur le sujet. Il y a des romans, il y a des chansons, il y a des manuels conjugaux qui sont écrits par des médecins. Il y a beaucoup d'essais sur le mariage qui sont produits.
Et puis vous avez été, puisque vous travaillez actuellement à Rome, à l'école française, vous avez été chercher des sources très intéressantes du côté du Vatican.
Voilà, je suis allée aux archives apostoliques vaticanes pour consulter des archives judiciaires religieuses, des procès matrimoniaux canoniques qui sont vraiment exceptionnels et qui ont le mérite de donner accès à la parole des époux, à la parole de leurs témoins. Et à la différence des sources imprimées, là on a vraiment accès aux témoignages directs de ceux qui ont vécu la nuit de noces. Et donc, ces témoignages sont extrêmement précieux pour faire une histoire qui ne renseigne pas que les imaginaires et les normes, mais aussi les pratiques, les expériences.
On demande à ceux qui souhaitent voir leur mariage dissous des détails très, très précis, très crus.
Oui, le mariage est indissoluble dans l'Église catholique et les époux, en principe, ne se séparent pas. Et quand ils veulent se séparer, il faut qu'ils aient recours à une procédure exceptionnelle. Ils s'adressent au tribunal diocésain. Et dans certaines situations, selon des situations qui sont prévues par le droit canonique, eh bien, ils peuvent demander soit la nullité du mariage, par exemple en cas de vice de forme, ou alors en cas de défaut de consentement au mariage. Et dans d'autres cas, ils peuvent demander aussi une dispense qui consiste à dissoudre l'union, même si celle-ci est valide. Et on peut l'obtenir quand on prouve que la consommation n'a pas été effective, donc quand il n'y a pas eu consommation sexuelle du mariage. Et donc, les époux sont amenés, dans ces circonstances, à expliquer les débuts de leur vie conjugale et à faire des récits de leur nuit noce pour expliquer comment elle s'est déroulée ou comment elle ne s'est pas déroulée.
Commençons, si vous le voulez bien, Aïcha Limbada, par parler de l'imaginaire de la nuit de noce qui est extrêmement, extrêmement présent dans les romans, vous le disiez, dans la nouvelle fantastique en particulier. Vous avez à cet égard fait une moisson passionnante.
Oui, tout au long du XIXe siècle, la nuit de noces apparaît dans un certain nombre de romans. La plupart des romans qui évoquent le mariage restent très pudiques sur la nuit de noces. Et quand la nuit de noces est évoquée, les romanciers ou les romancières en parlent comme s'il s'agit d'un secret. Donc ils restent assez pudiques sur la question, évoquent assez peu la sexualité. Et souvent, on a des récits de nuit de noces assez elliptiques, puisque pour sauvegarder la morale, ces récits de nuit de noces vont être des récits de nuit de noces non consommés. Donc il va toujours y avoir une péripétie qui va interrompre la nuit de noces, donc une maîtresse qui ressurgit, une femme qui est enlevée, un homme qui devient fou, qui est en proie à des hallucinations. Et donc on va avoir beaucoup d'histoires en fait de nuit qui s'interrompent un peu brutalement et avant que le mariage soit consommé, ce qui permet de préserver la morale.
Souvent, la mort est présente. Eros et Thanatos entretiennent un commerce particulier. Je vais vous faire entendre, on pourrait songer à beaucoup de citations, un extrait d'une nouvelle bien connue de Prosper Mérimée qui s'appelle « La Vénus d'Île ». Il s'agit d'un jeune marié qui est pris entre deux épouses possibles, dont l'une est en pierre. C'est la Vénus d'Île qui finalement surgira pour tuer le mari, en laissant désemparer la jeune épousée. Écoutez cet extrait, c'est une nouvelle de 1835, qui est lue ici par Jean-Louis Gemma, dans l'Heure de culture française du 26 septembre 1957. C'est une série d'extraits.
Il était près de 8 heures quand on se disposa à partir pour Ille. Mais d'abord eut lieu une scène pathétique. La tante de Mademoiselle de Pigary, qui lui servait de mère, femme très âgée et fort dévote, elle fit à sa nièce un sermon touchant sur ses devoirs d'épouse, duquel sermon résulta un torrent de larmes et des embrassements sans fin. Nous partîmes pourtant, et pendant la route, chacun s'évertua pour distraire la mariée et la faire rire, mais ce fut en vain. À Ille, le souper nous attendait, et quel souper! Le marié, qui avait disparu un instant avant de se mettre à table, était pâle et il buvait à chaque instant du vieux vin de Collioure. Cependant, au milieu des cris et des battements de mains, un enfant de 11 ans qui s'était glissé sous la table montrait aux assistants un joli ruban blanc et rose qu'il venait de détacher de la cheville de la mariée. On appelle cela sa jarretière. Ce fut pour la mariée une occasion de rougir jusqu'au blanc des yeux. Mais son trouble fut au comble lorsque M. de Perorade lui chanta quelques vers catalans impromptus, disait-il. « Qu'est-ce donc, mes amis ? Le vin que j'ai bu me fait-il voir double? Il y a deux Vénus ici. » Le marié tourna brusquement la tête d'un air effaré qui fit rire tout le monde. « Oui, poursuivit M. de Perorade, il y a deux Vénus sous mon toit. L'une, je l'ai trouvée dans la terre comme une truffe. L'autre, descendue des cieux, vient de nous partager sa ceinture. » Il voulait dire sa jarretière. « Mon fils, choisis de la Vénus romaine ou de la catalane celle que tu préfères. » Le maraud prend la catalane et sa part est meilleure. La romaine est noire, la catalane est blanche, la romaine est froide, la catalane enflamme tout ce qui l'approche. Cette chute excita un tel hourra, des applaudissements si bruyants et des rires si sonores que je crus que le plafond allait nous tomber sur la tête. Autour de la table, il n'y avait que trois visages sérieux, ceux des mariés et le mien. J'avais un grand mal de tête. Et puis, je ne sais pourquoi, un mariage m'attriste toujours. Celui-là, en outre, me dégoûtait un peu. Les derniers couplets ayant été chantés par l'adjoint au maire, et ils étaient fort lestes, je dois le dire, on passa dans le salon pour jouir du départ de la mariée qui devait être bientôt conduite à sa chambre, car il était près de minuit. Je pensais à cette jeune fille, si belle et si pure, abandonnée à un ivrogne brutal. Quelle odieuse chose, me dis-je, qu'un mariage de convenance. Un maire revêt une écharpe tricolore, un curé une étole, et voilà la plus honnête fille du monde livrée au Minotaure.
Les thèmes sont présents, là, que vous rencontrez à Isha Limbada au cours de vos travaux sur la nuit de noces.
Oui, plusieurs thèmes apparaissent dans cet extrait. Tout d'abord, le narrateur qui arrive dans cette région constate la grossièreté des mœurs, des rites collectifs qui lui semblent tout à fait étrangers. Et il constate avec effarement cette pratique de la jarretière, de ses chansons, lestes, qui blessent la pudeur de la mariée. Donc là, en fait, Mérimée, il se livre à une opposition assez classique qu'on peut retrouver dans de nombreux romans du XIXe siècle qui opposent donc les mœurs matrimoniales de la campagne et celles de la ville, qui sont donc plus urbaines, plus soucieuses de l'intimité des jeunes mariés. Tout cela parce qu'au XIXe siècle, il y a une montée des valeurs bourgeoises qui sont plus soucieuses de l'intimité et qui ont tendance à gommer des rites collectifs, des rites traditionnels qu'on retrouve à la campagne. Donc il y a par exemple cette jarretière-là, il y a ces chansons. Il y a les cortèges, puisqu'on amène la mariée jusque dans la chambre nuptiale, et puis d'autres rites, comme celle de la rôtie, cette soupe qu'on apporte après, pendant la nuit, aux mariés, ou ces aubades au petit matin qu'on va chanter. Les mariés sont davantage entourés, donc c'est vrai que ça peut être gênant pour les époux et aussi pour les épouses qui a souffrir en fait de cette publicité des rites collectifs. Mais dans le même temps, cette privatisation de la nuit de noces, cette recherche de l'intimité va faire que les époux vont se retrouver davantage seuls à seuls, moins entourés, et finalement la mariée peut se retrouver encore davantage à la merci de son mari quand elle se retrouve enfin seule, parfois une présence, la présence de l'entourage aux abords de la chambre nuptiale peut être finalement rassurante pour la mariée et n'est pas cette présence n'est pas forcément dérangeante pour elle.
Si je reste encore un instant dans la littérature, il y a d'autres grands noms qui sont exprimés au 19e siècle. Je pense par exemple à cette nouvelle de Georges Sand qui s'appelle Rose et Blanche, non pas Rouge et Noir, mais Rose et Blanche, où Blanche ne survit pas à l'effroi d'avoir dû épouser Horace qu'il avait violé des années auparavant et qui meurt au cours de la nuit de noces. Encore du sombre.
Oui, dans Rose et Blanche, Georges Sand livre un récit de nuit de noces horrifique dans la veine de ce qui s'écrit déjà depuis les années 1820. On est dans un récit à la fois romantique et très sombre. Et Georges Sand évoque à de nombreuses reprises, dans plusieurs romans, ce thème de la nuit de noces. Donc, il y a aussi, par exemple, la Mare au Diable, dans lequel Georges Sand se désole aussi de cette publicité des rites collectifs qui gênent la mariée.
Elle est du côté de l'intimité, elle. L'œuvre peut-être la plus frappante, vous le relevez dans votre ouvrage, c'est le livre de Guy de Maupassant, Une vie, qui date de 1883. On est déjà dans le siècle avancé. Et où la mère de Jeanne, la mariée, se soustrait à ses obligations en laissant à son mari la mission de prévenir sa fille juste avant qu'elle n'entre dans la chambre nuptiale. Et voilà ce que dit le père. Je crois que c'est assez significatif, vous allez pouvoir le commenter. Mignonne, il parle à sa fille. Mignonne, je vais remplir un rôle difficile qui devrait revenir à la mère. Mais comme elle s'y refuse, il faut bien que je prenne sa place. J'ignore ce que tu sais des choses de l'existence. Grand thème de l'inexpérience, nous allons y venir. Il est des mystères qu'on cache soigneusement aux enfants, aux filles surtout, aux filles qui doivent rester pures d'esprit irréprochablement pure jusqu'à l'heure où nous y remettons le Père entre les bras de l'homme qui prendra soin de leur bonheur. C'est à lui qu'il appartient de lever ce voile jeté sur le doux secret de la vie. Mais elles, si aucun soupçon ne les a encore effleurées, se révoltent souvent devant la réalité un peu brutale cachée derrière les rêves. Blessées en leur âme, blessées même en leur corps, elles refusent à l'époux ce que la loi humaine et la loi naturelle, lui accordent comme un droit absolu. Je ne puis t'en dire davantage, je ne puis t'en dire davantage. Donc, une réflexion d'ensemble, mais aussi le secret, une sorte de regret qu'elle n'en sache pas davantage et on ne peut pas lui dire plus. Mais n'oublie point ceci, c'est la chute, que tu appartiens tout entière à ton mari. Tout est dit, non ?
Oui, ce récit de Nuit de noces, celui de Guy de Maupassant, est sans doute le plus célèbre de la littérature du XIXe siècle sur le sujet. Guy de Maupassant reprend, comme d'autres avant lui, ce thème de l'ignorance très grande des jeunes filles qui arrivent au mariage. Dans le passage qui suit directement l'extrait que vous venez d'évoquer, eh bien, Jeanne va vivre un viol conjugal, puisqu'elle ne s'attend pas du tout à ce qui lui arrive, le père ayant donné des explications finalement assez mystérieuses et très peu concrètes sur ce qui va lui arriver.
On arrive là au centre des choses, c'est l'ignorance très répandue des jeunes filles en matière sexuelle. C'est ce que déplore Léon Blum dans un livre assez admirable, très courageux, de 1907, où il va contre les pratique de la bourgeoisie qui l'entoure, un livre qui s'appelle « Du mariage ». On en a une édition récente, une réédition préfacée par Pascal Horry. Je voudrais vous en faire écouter, Aïcha Limbada, un extrait. Vous me direz après s'il est vraiment en marge de la société du temps, ou s'il annonce la suite, si sa protestation porte et de quelle façon.
L'essence même du mariage, tel qu'il est institué dans nos mœurs, est d'unir une fille vierge à un homme déjà fait et de remettre à l'expérience de l'homme l'éducation de la vierge. À la base du système se trouve le principe ou, selon moi, le préjugé de la virginité des filles. Mais, en accordant que les filles doivent parvenir au mariage dans cet état de fraîcheur et d'ignorance, encore faudrait-il que ces novices y trouvassent de bons maîtres et que leur préparation conjugale fût confiée à de sûres mains. Le système actuel interdit aux filles d'acquérir avant le mariage une expérience même théorique de l'amour. Et d'autre part, par un effet détourné, il empêche la plupart des hommes de se procurer dans des conditions convenables cette expérience qu'il faut bien pourtant qu'un des deux époux possède. Si les jeunes garçons, pendant la période de liberté qui précède le mariage, sont contraints à requérir les leçons de prostituée, est-ce de leur part un libre choix ? Une préférence ? Ne préféreraient-ils pas, au contraire, trouver à leur portée, dans leur connaissance intime, la maîtresse qu'ils sont obligés de demander au hasard ? Au lieu de monnayer, dans des rencontres brèves et fortuites, l'ardeur de leur jeunesse, ne préféraient-ils pas la porter toute à une amie qui soit leur égale, qu'une tendresse commune aurait comme eux préparée à la naissance et à l'échange du désir ? Or, celle-là, précisément, ce qu'une convention sociale leur interdit comme l'acte le plus répréhensible et le plus lâche. Et si cette convention se justifie évidemment dans l'état des mœurs, n'a-t-elle point cependant pour suite nécessaire de rejeter les jeunes gens au plaisir vénal, aux louches contacts, aux habitudes vicieuses, à l'ignoble passivité que ce mode de plaisir comporte ? Sous les peines les plus sévères, vous défendez aux jeunes filles d'arriver au mariage déjà instruites de l'amour, mais du même coup, vous leur gâtez leur futur maître. C'est commettre trop de fautes à la fois.
Trop de fautes à la fois. Ce texte vous inspire quelle réflexion ? Est-ce qu'il n'apparaît pas comme très moderne ?
Alors, Léon Blum, en 1907, souligne la persistance de l'ignorance des jeunes femmes qui entrent dans le lit conjugal. Donc la persistance de préjugés avec cette attente infondée de la virginité féminine qui doit être préservée jusqu'au mariage, et aussi l'inégalité qui existe entre l'homme et la femme, puisque l'homme, lui, a eu des expériences, tandis que la femme n'en a pas. Donc en fait, c'est vrai que ce livre du mariage est extrêmement moderne, parce que comme d'autres, il dénonce en fait l'inégalité qu'il y a entre l'homme et la femme, mais il fait des propositions très audacieuses
et concrètes,
qui consistent ici à encourager la liberté sexuelle totale des jeunes filles dès avant le mariage. Et bon, ces propositions choquent et Léon Blum se retrouve tout de même en marge de ce qui peut être proposé au début du XXe siècle, parce que cette recherche d'égalité, elle peut prendre aussi d'autres formes. En fait, Léon Blum souhaite que les femmes comme les hommes épuisent leur instinct polygamique en vivant toutes les aventures qu'ils ont envie de vivre avant de se fixer ensuite plus sereinement dans un mariage monogame une fois qu'ils auront trouvé la bonne personne et une fois qu'ils auront fait toutes les expériences souhaitables.
Le siècle qui avance, on peut le noter, est néanmoins moins pudique que les débuts de l'époque de la Restauration ou de la monarchie de Juillet. On voit en particulier une rupture. Alors en 1881, il faut dire un mot de la censure, de ce qu'on autorise à dire. Et à partir de 1881, la grande loi de Juillet de liberté de la presse permet qu'une efflorescence de grivoiserie, de comédie, de vaudeville, de cabaret qui s'exprime de façon beaucoup plus développée. Je ne suis pas sûr que les jeunes filles y accèdent, mais enfin ça crée un climat différent, non, Aïcha Limbada?
Oui, à partir de la seconde moitié du 19e siècle et encore plus après la loi de 1881, il y a une explosion de récits humoristiques, grivois, un peu aigriards sur le sujet. Malgré tout, la censure continue de s'appliquer puisque il y a cette loi qui réprime l'outrage aux bonnes mœurs, hein, qui reste en vigueur. Et la censure dramatique s'applique jusqu'en 1906, mais elle est très inefficace. Donc ça n'empêche aucunement la production de spectacles, d'historiettes dans la presse un peu légère sur ce sujet de la nuit, qui va être traité de manière très leste.
Le cinéma même s'en empare. Je vois que dès 1896, un nommé Pirou produit un film qui s'appelle Le coucher de la mariée. Vous l'avez vu ?
Oui, en fait, il s'agit de quelques minutes où une mariée devant le lit nuptial va se déshabiller. Il s'agit en quelque sorte d'un effeuillage, d'un striptease. Et en fait, ces scènes de coucher de la mariée sont populaires. Et il en existe de très nombreuses versions à partir de la toute fin du XIXe siècle et encore au XXe siècle qui sont données à voir, par exemple, dans les baraques foraines où ces films sont montrés.
Alors néanmoins, on trouve des femmes qui parlent haut et qui protestent contre ces pratiques que vous décrivez, ce qui correspond en fait à un certain asservissement de la femme. Le mot n'est peut-être pas trop fort que propose le code civil de Napoléon, c'est-à-dire l'homme doit protection à sa femme et la femme obéissance. Ça durera jusque dans les années 1930.
Oui, de nombreuses femmes s'élèvent contre cette inégalité qui est instituée par la loi. Donc l'homme qui doit protection, la femme qui doit obéissance. Et en fait, cette soumission féminine qui est prévue par le code civil s'applique jusque dans le lit conjugal. Et donc George Sand, également des Saint-Simoniennes comme Claire Desmarre, ou alors un peu plus tard Séverine, une journaliste qui, pour la première fois, elle va raconter ce qui lui est arrivé pendant la nuit de noces à la première personne, deux fois, à l'occasion d'articles sur le sujet qui vont être publiés dans un quotidien.
Séverine, personnalité importante, c'était la disciple de Jules Vallès qui a beaucoup compté dans le journalisme de cette La Troisième République commençante. Eh bien, puisque vous en parlez, je vais vous faire entendre sa voix. C'est un extrait de l'article qui s'appelait « Nuit de noces », qui est paru dans le quotidien Gil Blas, le 28 novembre 1890. Il est lu ici par Claude Dominique. Dans « Le passé singulier », c'était une émission de Michel Vinocq et Claude Dominique sur France Inter, le 22 octobre 1984. La voix de Séverine, vous voyez, vous allez voir qu'elle n'est pas molle ni tendre.
Cela, et quoi c'est cela? Cette action infâme, cette meurtrissure, cette souillure, cet écrasement de la faiblesse par la force de la volonté sous la violence, ce supplice, cette profanation de tout l'être physique, tandis que le cerveau juge et que le cœur défaille, c'est le mariage. Voilà pourquoi on nous a enseigné la pudeur, pourquoi on nous a gardés dans la chasteté, pourquoi il n'était pas de rose assez blanche, de lys assez pur pour que notre regard s'y posât, de rime assez candide pour qu'on leur permît de battre des ailes comme une colombe en notre chambre immaculée. Pourquoi il n'était pas de col assez montant, de jupe assez longue, de paupières assez closes. C'était pour cela, pour en arriver à cette chose, pour que la livraison fût plus complète, pour que l'âme agonisât dans le corps blessé. Ah, comme je leur en veux à tous. Quels usages, quelles mœurs est-ce donc cela, de se réunir autour d'une vierge pour fêter son déshonneur légal, d'une pauvre enfant qui sert d'autant mieux de risée qu'elle est plus naïve qu'elle en sait moins. Tous ont ri. Pas un, pas une qui ait eu pitié, qui ait deviné mes proches épouvantes et que ma vie allait être gâtée peut-être à jamais. Parce qu'élevée presque toujours à la maison, sans sœur, sans amis, n'ayant rien entendu, rien lu, rien appris, j'arrivais trop pure au lit conjugal. Non, je ne me rappelle pas une étreinte où est vibrée quelque miséricorde, pas une lueur de pitié dans ses prunelles allumées de grossière joie. Mais c'est un crime, un vrai crime, qu'au nom de je ne sais quelle coutume on a commis envers moi. Et le mariage ainsi est un abus de confiance, un abject et ignoble guet-apens.
La nuit de noces devient un crime dans la bouche de Séverine sous sa plume. On est loin du bonheur qu'évoquait la chanson initiale de notre conversation. Aïcha Limbada.
Oui, Séverine dénonce avec beaucoup de force dans ce passage le viol conjugal que subissent les jeunes filles, surtout les jeunes filles de la bourgeoisie qui sont élevées à l'écart des lectures qui pourraient informés de ce qui vont leur arriver. Mais en tout cas, ces jeunes filles de la bourgeoisie qui sont élevées dans l'ignorance la plus complète souffrent de deux choses. Alors bien sûr, de ce viol conjugal, mais aussi elles se sentent trahies par leur entourage, par les hommes, mais aussi par les femmes qui se retrouvent, les mères, qui se retrouvent complices en fait de cette organisation qui consiste à prévoir en fait l'ignorance de manière systématique et à cacher complètement aux filles les réalités du mariage. Elles se sentent d'autant plus trahies qu'elles auraient pu espérer de la part de mères, de tantes, de sœurs, des explications et des éclairages sur ce qui se passe dans le mariage.
Viol conjugal, c'est une expression, c'est une réalité qui vous a frappé ?
Oui, le viol conjugal a une reconnaissance légale depuis peu de temps en France, hein, depuis les années 1990, les années 2000. Mais en fait, cette critique du viol conjugal existe depuis le 19e siècle. Donc en fait, on emploie plus souvent l'expression de viol légal à partir de la seconde moitié du 19e siècle pour dénoncer en fait l'absence de consentement sexuel et notamment de consentement sexuel féminin au mariage et à la première relation sexuelle, puisque c'est à ce moment-là que se pose pour la première fois cette question du consentement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les archives que j'ai étudiées, les archives vaticanes, eh bien, les juges ecclésiastiques sont très attentifs à cette notion du consentement. Non pas parce que ils vont constater la nullité du mariage en fonction du consentement sexuel, ce n'est pas ça qui les intéresse, mais le consentement sexuel devient un indice du consentement au mariage. Donc par exemple, si la femme explique qu'elle elle a vécu cette première relation sexuelle comme un viol, qu'elle n'était pas d'accord pour consommer le mariage, eh bien, elle signifie par cela qu'elle n'était pas d'accord avec le principe même de consentement au mariage. Et donc, c'est ça qui permet aussi d'invalider le mariage et d'obtenir la séparation.
On ne trouve pas cela devant les tribunaux ?
Alors, les tribunaux civils, pas tellement, parce qu'on on accorde peu de cas au consentement des époux. Ils ont dit oui à la mairie et cela suffit normalement à prouver le consentement. Il faut vraiment des expertises psychiatriques qui vont attester vraiment d'une crise de folie importante, par exemple le jour du mariage et auquel ont assisté beaucoup de témoins, pour prouver que l'époux ou l'épouse n'était pas dans son état normal et n'a pas pu donner un consentement. consentement éclairé, mais des épouses qui se plaindraient de l'absence de consentement et qui ont dit oui à la mairie, eh bien, sont des cas qui n'existent presque pas.
À partir du moment où il y a deux célébrations, je veux dire le mariage religieux pour la plupart des Français à l'époque, mais le mariage civil que la loi désormais exige, antérieur au mariage religieux, cette chronologie spécifique pèse de quelle façon sur la nuit de noces?
Oui, il y a des débats depuis 1792. Le mariage civil précède le mariage religieux. La plupart du temps, les époux se marient d'abord donc à la mairie et ensuite font aussi le choix d'aller à l'église. Et quand ces deux cérémonies n'ont pas lieu la même journée, se pose la question de savoir quand consommer le mariage. Est-ce qu'on consomme le mariage après le passage à la mairie, ou est-ce qu'on attend d'être passé à l'église pour pouvoir consommer le mariage?
Alors quid?
Eh bien, il y a des cas où les femmes se plaignent d'avoir été obligées par leur mari à avoir ce premier rapport sexuel le soir qui succède au mariage civil, et qu'elles vivent comme un viol parce que
elles sont pieuses et qu'elles
parce qu'elles sont pieuses et que c'est le mariage religieux qui fait foi. Et donc les médecins, par exemple, à la fin du 19e siècle préconisent de se marier civilement et religieusement le même jour pour éviter toute querelle à ce sujet.
Aïcha Limbada, au cours de vos travaux sur la nuit de noces, on a déjà avancé dans votre époque, mais en 1914, on voit Madeleine Pelletier, qui est une doctoresse, comme on dit à l'époque, qui publie l'éducation féministe des filles. La plupart du temps, ce sont des médecins hommes qui se mêlent de ces choses et éventuellement de donner des prescriptions, d'écrire des livres. Tout ça est ambivalent, non souvent?
Oui, Madeleine Pelletier est une figure très marginale, donc c'est une femme médecin qui prône une éducation extrêmement libérale des jeunes filles et qui désire ne rien leur cacher des relations entre les hommes et les femmes. Mais il s'agit d'un ouvrage qui est peu diffusé hein, quand elle écrit cette éducation féministe des filles et qui trouve un public très restreint. C'est vrai que dès les années 1860, beaucoup de médecins, et là c'est vrai que ce sont plutôt des médecins hommes, écrivent des manuels conjugaux à destination des époux afin de lutter contre cette ignorance que tous déplorent. Mais alors qu'ils constatent la très grande ignorance des femmes qui est extrêmement dommageable, puisque c'est cette ignorance qui va causer tous ces traumatismes à cause des révélations trop brutales, eh bien, ils ne s'adressent pas directement à elles. Ils préfèrent s'adresser au mari, au futur mari. Ils s'adressent au futur mari à qui sont destinés ces manuels conjugaux.
Ils sont plus libres en parlant aux garçons.
Ils sont plus libres, mais en fait, ces médecins critiquent également l'ignorance masculine. Puisque si les hommes eux-mêmes ont souvent eu des relations sexuelles avant le mariage, ils en ont eu dans d'autres conditions, avec des maîtresses, avec des prostituées. Et donc, ces manuels conjugaux sont destinés à préparer l'homme à être en mesure de guider une première relation sexuelle avec une femme vierge, inexpérimentée, c'est-à-dire celle qu'ils vont trouver dans leur lit. Et ils insistent sur le fait que ce rapport sexuel n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent vivre avant le mariage. Ces manuels qui s'adressent plutôt aux hommes vont renforcer une inégalité qui existe dans le couple entre un mari qui en saura davantage, et une épouse qu'on laisse finalement à la merci du mari, puisque elle, personne ne lui explique ce qui va se passer. En fait, ces manuels sont simplement destinés à renforcer en fait le savoir de l'homme, mais pas à apporter aux épouses plus de connaissances qui lui permettraient de mieux se préparer à ce qui va lui arriver.
Il y a, Aïcha Limbada, une prolongation de la nuit de noces, notamment à partir des années 1830, 1850, ça devient à la mode. On le voit avec un certain nombre de récits, de mémoires de romantiques. C'est le voyage de noces. Le voyage de noces, il faut dire un mot. Il a été beaucoup étudié par Sylvain Vénère, qui a été vos inspirateurs comme professeur. Le voyage de noces qui apparaît comme une sorte de concentré de tête à tête. Ça peut être dans le midi, en Italie, ça peut être dans les trains. Et parfois, il reste au port une troisième personne qui est chagrinée et qui regarde le couple s'envoler. Écoutez cette chanson chantée par Patachou, une chanson avec des paroles de Jean Valtet, une musique de Jean Rochette qui s'intitule « Le voyage de noces ».
Ça faisait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu, tous les deux. Un matin de printemps, vous aviez disparu, tous les deux. Dans la chambre est resté le lit tout ouvert, par vous deux. Ou déjà ce soir-là, vos corps se sont offerts, tous les deux. Vous avez dû en faire de beaux voyages de noces en montagne. Vous avez dû en faire des châteaux comme les gosses en Espagne. Vous trouverez aussi le bouquet de lilas blanc et bleu, cueilli dans le jardin, je l'avais posé là pour vous deux. Surtout ne riez pas en le voyant faner, tous les deux. C'est le seul souvenir que je pouvais garder de vous deux. Vous avez dû en faire de beaux voyages de noces en montagne. Vous avez dû en faire des châteaux comme les gosses en Espagne. Et puis me revoilà comme il y a 20 ans. Avec vous deux, rien ne peut s'oublier, pas même avec le temps qui se fait vieux. Je ne veux pas savoir si vous avez gardé tous les deux l'amour de ce printemps que vous m'aviez volé tous les deux. Vous avez dû en faire de beaux voyages de noces en montagne. Vous avez dû en faire des châteaux comme les gosses en Espagne. Moi, je n'ai jamais fait de beaux voyages de noces en montagne. Pourtant j'en avais fait des châteaux comme les gosses en Espagne.
Quel est la géographie de ces voyages de noces tels qu'ils se développent dans la bourgeoisie française, surtout à partir de la seconde partie du XIXe siècle?
Bien, les époux se rendent en Italie, mais aussi sur la Riviera, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Côte d'Azur actuellement. Ils peuvent aussi aller à la montagne, c'est ce qu'évoque la chanson, par exemple en Suisse, et d'autres encore peuvent se rendre à Paris quand ils ne sont pas parisiens. En fait, dans cet extrait, on a cette femme qui exprime son dépit, sa tristesse à ne pas partir en voyage de noces avec l'être aimé, puisque l'homme qu'elle aime part avec sa femme. Et en fait, ce voyage de noces est censé souder le couple dans une expérience nouvelle, avec une découverte des paysages qui coïncide avec une découverte du corps de l'autre. Donc ici, on a une vision assez idyllique du voyage de noces.
Du côté de la frustration.
Oui, en fait, elle est frustrée parce qu'elle voudrait vivre ce moment rêvé. Et ce que je montre, c'est que ce voyage de noces, il peut être organisé quelques jours, quelques semaines après le mariage, mais au XIXe siècle apparaît aussi cette pratique qui consiste à faire coïncider le voyage de noces avec la nuit de noces. Donc le voyage de noces débute le premier soir du mariage. Donc ça, c'est parce que de nombreux couples bourgeois, très soucieux de leur intimité, essaient de se dérober à la présence d'un entourage qui pourrait paraître trop curieux. Et donc organisent ce voyage pour s'éloigner le plus possible, délocaliser la chambre nuptiale, soit dans un wagon-lit, soit dans un hôtel à distance.
Au fond, on est sensible à vous lire, Aïcha Limbada, cette sorte de contraste permanent entre l'image un peu romantique d'un bonheur attendu et la description de cette épreuve que pour beaucoup de femmes constitue la nuit de noces.
Oui, parce qu'il s'agit vraiment d'une épreuve pour des femmes et aussi pour des hommes, puisque ce qui est attendu, c'est la consommation du mariage. C'est, dès la première nuit, le devoir conjugal qui s'applique aux hommes comme aux femmes, mais surtout aux femmes.
Mais au total, c'est le face-à-face de deux corps.
Oui, c'est un face-à-face de deux corps. Et les problèmes, les difficultés apparaissent parfois même avant la relation sexuelle, puisque l'intimité, elle commence à partir du moment où la porte se referme derrière les époux, qui doivent entrer dans le lit, donc qui doivent se déshabiller, et puis se retrouvent face-à-face pour la première fois de manière extrêmement rapprochée. Et donc, il y a cette intimité qui s'impose à eux. Donc, en fait, les époux découvrent le corps de l'autre pour la première fois. Les odeurs aussi, les odeurs corporelles qui sont parfois une épreuve. Et donc, on a des témoignages, par exemple, d'époux qui ne supportent pas, en fait, la trop grande proximité corporelle avant même que le rapport sexuel ait lieu. Et donc, il doit s'appliquer à consommer ce mariage, puisque c'est ce qui est attendu socialement par tous.
Au fond, il y a beaucoup de facteurs qui permettent de définir bonheur ou malheur dans cet instant spécifique.
Oui, en fait, cette épreuve, elle est difficile pour tout le monde. Et en fonction des sentiments que les époux se portent l'un à l'autre, de l'attraction physique qui peut être là ou non, de la confiance qu'on peut accorder à l'autre, eh bien, la nuit de noces peut être compliquée à vivre, mais pour autant ne pas être vécue comme un échec.
Il y a beaucoup de cas où ce n'est pas conçu comme un échec, effectivement. La capacité de communiquer.
La capacité de communiquer entre les deux et de ne pas voir l'autre comme un ennemi qu'on a dans son lit.
Être assez fréquent quand même qu'on ne les voit pas comme un ennemi.
Eh bien en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que les époux peuvent avoir des sentiments affectueux l'un pour l'autre et les épouses peuvent éprouver un attachement réel pour leur époux et pour autant avoir des difficultés à se livrer à ce premier rapport sexuel, parce que entre l'attachement et des sentiments un peu platoniques et ensuite la réalisation d'un rapport sexuel qui pourrait être épanouissant nécessite aussi d'éprouver du désir, et bien il y a tout toute une gamme de configurations qui peuvent exister.
À mesure que le siècle avance, néanmoins, se pratique davantage. On rejoint finalement quelque peu la campagne à cet égard. Ce qu'on commence d'appeler, d'un terme anglais, le flirt. Il y a un livre qui a un grand succès de Marcel Prévost dans les années 1890 qui s'appelle « Les demi-vierges ». Donc, il peut y avoir des démarches progressives. Ça peut être, dans certains cas, moins une découverte brutale qu'un aboutissement.
Oui, bah, ce roman des demi-vierges montre que des jeunes filles, donc là, plutôt les jeunes filles de la bourgeoisie, peuvent connaître des rapprochements avec des hommes avant le mariage, avoir des rapports de séduction avec eux. Mais Marcel Prévost décrit ces interactions de manière extrêmement négative, tout de même, puisqu'il décrit, en fait, la crainte que les hommes peuvent avoir d'avoir affaire à ces demi-vierges, c'est-à-dire ces femmes qui sont finalement expérimentées sexuellement, qui ne sont plus ignorantes, mais qui, au cours de la nuit de noces, vont apporter tous les signes de la virginité. Donc elles peuvent, en quelque sorte, tromper le mari qui croit avoir affaire à une femme pure, de corps et d'esprit, et qui ne l'est pas tant que ça.
Pour éviter de donner à Aïcha Limbada une coloration trop sombre, cette évocation que nous venons de faire de la nuit de noces, notamment au XIXe siècle, on peut citer, peut-être cela surprendra, la reine Victoria, qui était très amoureuse du prince Albert de Saxe-Cobourg, son mari, et qui, après sa nuit de noces, informe son premier ministre, on est en pleine politique, là, Lord Melbourne, en lui disant « cela a été une nuit déconcertante et exquise ». Vous connaissez cette citation ?
Bien, je l'ignorais, et c'est agréable de voir qu'il existe parfois des témoignages positifs de la nuit de noces. C'est vrai que les archives que j'ai pu consulter ne font état que d'échecs, de nuits noces malheureuses, et on espère qu'il y a eu des nuits noces heureuses. Déconcertante, c'est vrai, parce que elle a dû arriver sans doute vierge au mariage et se fit en étonnement, mais l'amour qu'elle portait à son mari a dû aider et à faire de cette nuit une nuit inoubliable et qui reste dans les annales.
Vous ne craignez pas qu'il y ait parfois un biais par le fait que ce soit précisément les temps de malheur ou les moments où les choses se passent mal qui laissent des traces plus que les réussites?
C'est vrai qu'on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire.
C'est vrai aussi du côté de notre historiographie.
Eh ben oui, les époux qui vivent leur nuit de noces de manière satisfaisante n'en parlent pas. Et d'ailleurs, dans les archives vaticanes que j'ai été amenée à consulter, quand la nuit de noces n'a pas posé de problème, il est juste indiqué. Que la nuit s'est déroulée normalement ou qu'il n'y a rien à signaler à ce propos. Donc ça montre bien que parfois ce n'était pas là que le problème résidait. Et c'est vrai que ce que j'ai étudié, c'est surtout des nuits noces difficiles, des nuits noces négatives qui évoquent le plus souvent des déceptions ou alors de manière encore plus dramatique ce viol conjugal.
Il faut peut-être faire donc poser un coefficient de correction, mais ça nous laisserons ça ouvert.
Voilà, et j'ignore lequel appliquer malheureusement. C'est très compliqué d'avoir des chiffres précis à ce sujet.
En rejoignant le côté lumineux de la chanson que je vous proposais en commençant notre conversation. Pour finir, j'aimerais vous entraîner jusqu'aujourd'hui, puisqu'au fond, ce qui frappe, c'est la diminution du nombre de mariages, donc forcément de nuits de noces. En 1970, il y avait 400 000 mariages annuels en France. En 2000, il n'y en avait plus que 300 000. Et aujourd'hui, une diminution de 30% est décrite par les statisticiens. Il n'y aurait plus que 150 000 mariages environ. Donc ça suppose une diminution drastique de votre chère nuit de noces dont nous avons parlé aujourd'hui.
Alors c'est vrai, mais finalement dans les années 1970, il y a plus de mariages annuels qu'au 19e siècle. Les gens se mariaient plus dans les années 1970 que...
Peut-être que cette augmentation était liée d'ailleurs simplement à la hausse de la démographie, mais les mœurs ont beaucoup évolué en 50 ans.
Oui, c'est vrai que maintenant la nuit de noces n'est plus un enjeu comme ce qu'elle pouvait être au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Des nuits de noces, il y en a encore beaucoup et des centaines de milliers par an. Mais étant donné que les époux ne se rencontrent pas sexuellement pour la première fois le soir du mariage, eh bien, les enjeux ne résident plus dans cette première rencontre. Et en fait, on peut parler de nuit de noces parce que les époux recherchent souvent quelque chose d'un peu différent de ce qui existe dans leur vie quotidienne, soit parce que ils vont choisir une chambre d'hôtel un peu particulière, parce qu'ils vont réserver une suite nuptiale dans un hôtel, ça peut arriver, mais il est assez fréquent de nos jours que les époux n'aient même pas de relations sexuelles pendant cette nuit parce qu'ils préfèrent fêter leur mariage avec leurs invités et danser toute la nuit.
Ils sont fatigués
et donc il n'y a plus les mêmes enjeux aujourd'hui.
Très bien, mais par comparaison, ça ne rend que plus intéressant le voyage que nous avez permis de faire aujourd'hui Aïcha Limbada. Votre ouvrage s'appelle « La nuit de noces », une histoire de l'intimité conjugale. Et elle est publiée aux éditions La Découverte. C'est vous qui avez choisi la très belle couverture ?
Oui, j'aime beaucoup Félix Vallotton. Et cette couverture, c'est... représente une femme qui se déshabille dans une chambre dont les portes sont fermées. Donc, je trouve qu'elle illustre assez bien le mystère qui peut se dégager et peut-être la part d'ombre qui pouvait caractériser ces nuits de noces de la fin du XIXe siècle.
Il faut, je l'ai cité, évoquer Michel Perrault et sa fameuse histoire de chambre parue au Seuil en 2009. Également l'ouvrage collectif d'Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, Histoire du corps, aujourd'hui disponible dans Point Histoire. Vous en êtes servi ?
Oui, ce sont des livres que j'ai énormément consultés tout au long de mes recherches et dont je recommande vivement la lecture.
Alain Cabantou a publié avec François Walter chez Payot tout récemment, en 2020, un livre qui s'intitule « La tentation de la chair, virginité et chasteté ». Il ouvre davantage l'éventail temporel puisqu'il va du XVIe au XXIe siècle. Et puis un ouvrage utile aussi, précieux, d'Anne-Marie Zaune, Chrysalide, femme dans la vie privée, 19e-20e siècle. C'est une publication de la Sorbonne en 1996. Et vous trouverez plusieurs autres ouvrages évoqués, comme vous le savez, sur notre site, dans la bibliographie complémentaire à laquelle vous pourrez avoir accès. Vous pourrez également y trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et puis bien sûr, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Et sur le fond d'une musique que nous devons à Jacques Offenbach, le chant nuptial, c'est un opéra bouffe qui s'appelait La Grande Duchesse de Gerolstein sur des paroles de Meillac et Halévy, 1867. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Fabien Gosset et Benjamin Reyes à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Isabelle Fort-Rendu.
France Culture présente « Vers un pays lointain », dialogue sur l'Antiquité. Un voyage inspirant dans le passé pour découvrir les richesses du temps et mieux comprendre notre présent.